Ah, je dois vous répondre à trois questions. Aussi faciles à répondre les unes que les autres. Et pour toutes les trois avec la même logique. La première de ces questions, et la meilleure, c'est pendant la liturgie, on parle à deux reprises, on parle à propos de la liturgie et du sacrement de l'Eucharistie, on parle de ce sacrifice logique et non sanglant. Ah, tu parles d'une logique, toi. On mange du pain et on avale le corps du Christ. On boit du vin et en fait c'est le sang du Christ. Appelez ça logique. Eh bien oui, c'est parfaitement logique. Parce que le mot logique, dans son assertion liturgique, ne veut pas dire, je ne sais pas comment vous dire, qui coule de source, mais ça veut dire qui vient du logos. C'est le culte du logos, le culte du verbe de Dieu, de la deuxième personne de la Trinité. Et voilà, c'est vraiment un culte logique. Ce que souvent, pour les gens qui ne sont pas comme vous, qui n'ont pas de culture théologique, on traduit par ce culte spirituel. C'est quoi le culte spirituel? Ça ne veut rien dire. Alors que le mot grec, c'est le culte logique. Il est vrai que la logique philosophique, si je puis l'appeler comme ça, découlement harmonieux et sensé d'une pensée est logique, parce que en rigueur de terme, cette connaissance-là vient aussi du logos du Christ, de Dieu, du Verbe de Dieu. Mais, compris philosophiquement, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que je saurais moins vous définir que le logos théologique. Mais bon, dans la liturgie, entendez, la liturgie qui découle, qui vient du logos, qu'on tient du logos, donc de la deuxième personne de la Sainte Trinité, du verbe de Dieu. La deuxième question, que je résume un peu, c'est que il y a une injonction dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit ? Honore ton père et ta mère. Et une autre, le Christ par ailleurs dit aussi, celui qui ne quitte pas son père, je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais quiconque aura quitté son père et sa mère à cause de moi aura une récompense dans le ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Faut les quitter ou faut pas les quitter ? Honore ton père et ta mère. Ça veut dire, sois charitable avec eux. Reconnais de qui tu tiens ta vie. Et honore ton père et ta mère, c'est de qui tu tiens ta vie, de papa et maman, père et mère, mais des quatre grands-parents, des 16 arrière-grands-parents, et vous pouvez remonter avec Adam, jusqu'à Adam, comme ça. C'est-à-dire, sans oublier, évidemment, bien sûr. C'est-à-dire, honore tes ancêtres aussi. Tiens compte de tes ancêtres. Et les honorer, c'est de vivre selon leurs principes, de vivre comme eux. C'est pas forcément avoir une mémoire intellectuelle d'eux. Pour nous qui sommes extrêmement dégénérés, la connaissance de nos parents remonte à souvent à deux générations. La troisième est un peu vague. Quant à la quatrième, on ignore presque d'où ils viennent. Au-delà, on ne sait pas. Sauf si on a dressé un arbre généalogique mais qui donne une connaissance intellectuelle, une connaissance purement historique, j'allais dire, de notre lignée, mais pas une connaissance intime. Alors que lorsque l'homme était encore équilibré, il pouvait remonter à de nombreuses générations. Imaginez qu'un peuple africain, les Dogons, ont une connaissance, tous, une connaissance de leurs ancêtres sur 200 générations, sur 20 générations, n'exagérons pas, sur 20 générations. Vous êtes capable, vous, de remonter à 20 générations en disant que le grand-père du grand-père du grand-père du grand-père, 20 fois, il a vécu à tel endroit, il avait fait telle chose, il avait dit telle chose, on tient de lui telle histoire. Mais c'est ça, honorer son père et sa mère. Mais par ailleurs, le Christ dit aussi, quiconque n'aura pas quitté son père et sa mère n'est pas digne de moi. Ça veut dire quoi ? Père et mère, c'est père et mère au sens strict du terme. Ce n'est pas simplement une recommandation pour ne pas être des tanguis. Le fait d'être un tangui, déjà, est une déviation. C'est qu'on n'a pas rompu, on n'a pas pris son envol, on n'assume pas sa vie pour une raison ou pour une autre, qui peut être quelquefois un malheur d'ailleurs. Ce n'est pas forcément une accusation pour les tanguis quand je dis ça. C'est ce que c'est un tanguis. C'est parce qu'il y a eu un film en France qui s'appelle Tanguy, d'un garçon, et ça c'est monnaie courante, d'un garçon qui vit chez papa et maman, bien qu'il soit adulte depuis belle lurette, mais c'est plus facile de se faire entretenir par papa et maman, qui impose son rythme de vie au point que les parents, ils en deviennent fous. Et maintenant, c'est passé dans l'âge courant, c'est un tanguy. Oui, donc c'est pas simplement une injonction pour ne pas être des tanguis, mais c'est parce que cet attachement des tanguis, pour résumer ce prénom-là, cet attachement-là montre un attachement anormal. L'homme n'est pas fait pour vivre uniquement sous l'aile de papa et maman. Il doit être indépendant, il doit être libre, il doit prendre femme ou époux, et vivre de ses propres ailes, et fonder une autre génération, fonder un autre... Ça, c'est la voie normale. Dieu nous a créés pour cela. Mais en même temps, vouloir vivre... se séparer de ses parents, vivre de ses propres ailes, n'est pas ne pas les honorer. On les honore justement en vivant des principes qui les ont fait vivre. Entendez évidemment des principes chrétiens. S'ils avaient des principes non opposés au christianisme, on n'a pas à les suivre. Et dans ce cadre-là, c'est fait partie de la question. Dans ce cadre-là, quand les parents exercent sur nous une autorité anormale, excessive, je ne parle pas pour les mineurs. Et quand je dis mineurs, je ne parle pas mineurs légal. Au point de vue légal, je parle mineurs parce qu'on est encore dépendant de papa et maman. On doit une obéissance quasi absolue, sauf cas de conscience. Si ta mère t'ordonne d'aller te prostituer pour gagner de l'argent à la maison, tu as le devoir de ne pas lui obéir. Mais je ne pense pas que ce soit son but. Je veux dire qu'il peut y avoir des cas de conscience. Je prends celui-là parce qu'il est particulièrement gros et grossier. Il peut y avoir d'autres cas comme ça. Mais sans quoi l'obéissance à ses parents, quand on est enfant, quand on est jeune, disons, l'obéissance, pourquoi tu t'en vas alors qu'on parle d'obéissance à papa et maman? L'obéissance à papa et maman est un facteur d'équilibre. Pour notre équilibre psychique, on a besoin d'apprendre à renoncer à notre volonté à nous pour faire la volonté de quelqu'un d'autre, donc de faire la volonté de papa et maman. Cependant, quand on n'est pas un tanguy et quand on a pris son indépendance, même si papa et maman ne donnent pas la bénédiction formelle pour certaines choses, on a la liberté de pas de rompre avec papa et maman, ça peut amener quelquefois ça, mais de se passer de la bénédiction et de faire ce qu'on a à faire. Quel exemple je peux prendre? Si Jean, dont la maman a 102 ans, avec Odile, décide de faire comme Père Chrysostome et Sœur Ignace, de devenir moine et moniale en conscience, c'est pas un appel du pied, hein, je ne révèle aucun secret. Hein. S'il décide ça, ils sont pas obligés, il n'est pas obligé d'aller trouver maman et lui dire « Maman, est-ce que tu me donnes la bénédiction pour devenir moine ?» Il y a longtemps qu'il a pris son envol tout seul, il peut, puisqu'il a encore sa femme, il a cette chance-là, il peut décider avec sa femme, mais il n'est pas obligé d'aller demander la bénédiction de maman. Et si maman n'est pas contente, parce que cela scandalise, elle a l'impression que c'est un divorce, c'est leur conscience, et peu importe ce que pense maman. Vous comprenez, quelquefois, je prends un exemple un peu extrême, mais pour d'autres choses, ça peut être comme ça. Il est normal d'avoir son indépendance et de ne pas suivre toujours les... Mais les honorer, dans ce cas-là, ça ne veut pas dire ne pas être indépendant, mais ça veut dire de le faire avec délicatesse, avec attention, avec amour, même si c'était avec fermeté. Mais bien sûr, par ailleurs, dans la recommandation du Christ qui ne quitte pas son père ou sa mère n'est pas digne de moi, père et mère sont pris dans l'évangile là comme des symboles, comme ce qui nous est le plus cher en quelque sorte. On ne parle pas des enfants, on ne peut pas les abandonner. Avant qu'ils ne prennent leur essor. Et dans l'idée des parents, il est normal de le faire. Oui, on n'est pas obligé. Voilà, on n'est pas obligé de leur demander. Il faut prendre ses. Oui, que quand le Christ prend l'exemple de père et mère comme étant la chose la plus élémentaire, la plus fondamentale, mais il faut l'entendre évidemment à tout attachement. C'est aussi le symbole de tout attachement. N'allez pas vous détacher de papa et maman pour vous attacher à tonton et tontine ou à votre nounou ou je ne sais pas qui. Enfin, bon. Père et mère, c'est symbole de tout attachement terrestre, y compris au bien matériel, à sa maison, c'est de se détacher de tout. Notre vie n'est pas une vie... N'est pas une vie qui est uniquement sur terre. Papa et maman, père et mère, là, signifie en quelque sorte tout ce qui est humain. Et notre vie, elle consiste à nous détacher justement, peu regressivement et raisonnablement, de ce qui est humain pour nous attacher à un autre royaume, au royaume des cieux. Donc finalement, à nous détacher de tout. J'espère avoir répondu à peu près à la question. Et une autre question. Qui peut amener la révolution? Dont la réponse peut amener la révolution, mais pas par vous, je connais, pas de problème. Qui est assez délicate à traiter? Pourquoi l'Église ne reconnaît pas les unions sexuelles en dehors du mariage ou avant le mariage? Comment vous répondre à ça? Ce n'est pas une loi extérieure. C'est pas un ordre que donne l'Église, une étroitesse d'esprit. C'est pas non plus pour une question purement morale, quoique l'aspect moral joue aussi son rôle. Pourquoi on ne peut pas avoir de relations sexuelles en dehors du mariage? C'est parce que nous croyons en Dieu. Et nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui vivent comme des païens, ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas qu'on leur donne la permission de faire ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas ces lois-là, ils ne reconnaissent pas. Mais nous, nous avons foi en Dieu. Et la foi n'est pas seulement n'est pas une croyance, la foi c'est une manière de vivre. C'est une mise en application de notre croyance. Donc, on croit en un seul Dieu. Eh bien, on ne se marie qu'avec une seule personne. Et l'union sexuelle, c'est le mariage. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas changer de partenaire et on ne peut pas avoir de relation sexuelle avec celui ou celle qui deviendra plus tard notre mari. Parce que le mariage est unique. Et c'est pas, j'insiste là-dessus, c'est pas une loi de l'Église. C'est devenu aussi la loi de l'Église. Parce que c'est le sens même de notre création. J'ai deux aspects, j'espère que je ne vais pas en oublier un en vous exprimant l'autre. D'une part, c'est le sens même de l'amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Je parle de l'amour profond, je ne parle pas des gestes ou des sentiments. L'amour, c'est une exclusivité. L'amour, c'est un choix, mais pas une imposition. C'est un choix que je fais et qui est unique dans ma vie et qui engage toute ma vie. Aimer au sens profond du terme, c'est pas avoir des sentiments d'agrément. J'aime Julie, mais je ne suis pas marié avec elle. Je ne vais pas me marier avec elle. Et je vous aime tous, mais je ne vais pas me marier avec chacun d'entre vous. Même si notre lien est aussi profond que c'était un lien de mariage, mais qui est autre? L'amour, c'est un don total, c'est-à-dire, s'il est total, il est exclusif, je ne peux pas le partager avec quelqu'un. C'est un don total de moi à la personne, à une autre personne, et de cette personne à mon égard. Et multiplier ces amours, si je puis dire, c'est édulcorer, c'est effacer, c'est trahir le véritable amour que l'on a. C'est comme ça qu'une union conjugale avant le mariage est effectivement de fait, indépendamment de toute connotation morale, est de fait un adultère. Parce que c'est déjà trahir le don total que l'on va avoir avec la personne que l'on a choisie, ou qu'on va choisir. Ça va tellement loin que bien souvent, quand il y a union conjugale avant le mariage, après, pendant le mariage, pas dans tous les cas, fort heureusement, il y a des doutes. S'il a été capable ou si elle a été capable de faire ça avec moi avant le mariage, il n'est-il pas capable de le faire aussi avec d'autres après le mariage? La tentation vient s'insinuer. On voit que ça amène un trouble. D'autre part, nous sommes chrétiens. Et quand Dieu a institué le mariage, quand il a fait de la femme, Ève, qu'il en a fait l'image de l'homme, il les a fait de manière à ce que leur union manifeste, pas simplement ressemble, mais manifeste l'amour, c'est-à-dire l'union profonde qu'il y a entre Dieu et l'humanité. Et c'est ça que nous reproduisons lorsque nous nous marions, pour ceux qui se marient, lorsque nous nous marions, nous manifestons, nous montrons, nous réalisons le mystère véritablement de l'union de Dieu et de l'humanité. Et vous pouvez multiplier ça, vous ? Il y a plusieurs humanités, il y a plusieurs dieux ? C'est pas possible. Et si on a donc plusieurs unions, dans plusieurs mariages ou plusieurs unions sexuelles avant ou en dehors du mariage, on trahit purement et simplement Dieu. C'est-à-dire qu'on fait échec au sens, à la mission qu'il nous a donnée de montrer aux yeux du monde, je ne dis pas de montrer aux yeux des gens du monde, mais dans l'existence du monde, c'est montrer le contraire de cette exclusivité du don de Dieu à nous et de nous à Dieu. Et en plus, cette unicité du mariage manifeste, comme je l'évoquais précédemment, manifeste le sens même de l'amour. Un amour partagé n'est plus de l'amour, c'est de l'affection, si vous voulez. Mais c'est plus le véritable amour, l'amour absolu, si je puis dire, c'est un don total. Vous savez combien de vous connaissez combien de personnes, vous avez entendu parler de tant, combien de personnes qui se marient, qui ne se sont pas touchées avant le mariage, et les circonstances de la vie, notamment les guerres, mais pas exclusivement, c'est parce que j'ai en tête quelques exemples comme ça, qui d'un coup se trouvent veufs ou veuves juste après le mariage. Combien d'entre eux n'ont jamais voulu se remarier après ? Pas simplement par affectivité, avec le souvenir, ah, il était si bien, je pourrais pas retrouver mieux. Peut-être qu'il peut y avoir mieux. Mais ils se sont consacrés à ce futur défunt, à cette personne qui est là, et ils restent fidèles, malgré l'absence physique, ils restent fidèles. Hein, ça, c'est le sens même de l'amour. Quel amour il y a là-dedans ! Et dans ce cas-là, ce n'est pas de la frustration, bien sûr. Je ne veux pas dire que la personne ne souffre pas de se trouver seule et de pas avec son conjoint. Mais elle n'est pas frustrée. Elle offre ce sacrifice, comme une personne qui se... Je prends souvent un exemple, que je vais vous redire là tout à l'heure, d'une personne qui... d'un couple qui, au début, d'un couple de gens vivants, enfin vivants, dynamique, je veux dire, hein, sportif et tout ce que vous voudrez. Dès le début de leur mariage, un saut en parachute mal réceptionné, il se casse la colonne vertébrale, paralysé. Il vit après pendant, je ne sais pas, 30 ans ou 40 ans sur un tringlot et sa femme lui reste fidèle. Le soin, c'est sûrement pas la vie qu'ils avaient envisagée. Mais ils se sont aimés comme ça, ils continuent à s'aimer comme ça. Ils portent ensemble les conséquences de l'accident de l'un. Vous voyez que l'amour est quelque chose d'absolu, donc on ne peut pas le partager. L'unicité du mariage, c'est le signe même de l'amour. Sinon, cet amour-là est entaché d'une certaine forme d'égoïsme. Ma femme est paralysée ou elle est morte, eh bien, je vais en trouver, je vais en chercher une autre, à plus forte raison si c'est le divorce, évidemment. Je vais en chercher une autre, pourquoi? Parce que je n'ai pas le courage de rester seul, parce que je ne sens pas la présence, dans son absence, de ma femme défunte. Alors que si je lui reste, elle reste unique pour moi, je vis encore avec elle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre dans le sens. C'est pour cela. Après, on peut chercher des questions morales sur l'absence de relations conjugales en dehors du mariage. Et il y a une chose que l'on ne sait pas faire, qui correspond aussi à ça, c'est de comprendre le sens de la virginité, la grandeur qu'il y a à préserver sa virginité, homme ou femme. C'est-à-dire de consacrer l'intégrité de notre personne, parce que, avec l'exercice sexuel, si je puis dire, purement physique, je perds aussi quelque chose de mon intégrité, c'est pas seulement physique, mais mon intégrité intérieure. Et garder sa virginité avant le mariage, c'est vraiment tout consacrer par amour pour celui ou pour celle qui va être mon époux et mon épouse. Et c'est la seule chose qui justifie aussi la vie monastique. Qu'est-ce que c'est que la vie monastique ? C'est consacrer sa virginité, non pas pour un homme que je vais aimer ou pour une femme que je vais aimer, c'est consacrer l'intégrité totale, c'est un beau pléonasme, hein, mais l'intégrité totale de ma personne à Dieu, qui devient d'une certaine manière mon époux. Non physique, évidemment, mais ça devient celui auquel je donne tout de ma vie et pour lequel je renonce au plaisir de la chair, à la joie légitime qu'il y a dans des épousailles humaines. Mais ça, je l'offre à Dieu parce que j'aime Dieu encore par-dessus tout. Alors que offrir sa virginité à un homme ou une femme avant de se consacrer à Dieu dans la vie monastique, dire je goûte d'abord à ça, et puis quand je suis un petit peu lassé ou quand j'ai vu ce que c'était, à ce moment-là, à Dieu je lui offre le reste. Puisque ça ne m'a pas complètement suffi, comme ça j'ai le beurre et l'argent du beurre, si je puis dire. Je ne parle pas de la crémière encore. Non. Je caricature un peu, si vous voulez, mais de fait, c'est ça. De fait, c'est ça. Quand je vous dis ça, je vous avais dit que ça allait être délicat, vous l'avez exprimé. Je sais, et je serais hypocrite de ma part de vous faire la leçon, je sais que on n'est pas tous des héros. On peut passer des périodes de notre vie en faisant échec à cela. On peut avoir consommé le mariage avant de se marier. On peut s'être donné à plusieurs hommes ou à plusieurs femmes avant le mariage. On peut. C'est-à-dire, il se peut se trouver qu'on ait fait ça. Et c'est un échec. C'est pour ça qu'on appelle ça du péché. Et le péché, c'est un échec, tout simplement. Fautif, on reconnaît la faute. Mais Dieu a institué, c'était dans l'évangile, dans l'épître d'aujourd'hui, il a institué le repentir. Le repentir, c'est-à-dire par le baptême, mais par la confession, par l'attitude intérieure, c'est le regret de nos fautes, la désolidarisation main des solidarisations avec les fautes que j'ai commises. J'ai volé le billet de 500 euros qui est dans le sac, qui était tout à l'heure dans le sac à main de Bénédicte. Tout d'un coup, je me rends compte en vous parlant que c'est quand même pas bien qu'elle va en avoir besoin. Enfin, avec tous ceux qu'elle a à côté, elle n'a même pas s'en apercevoir. Le repentir, ça va être de dire, oh c'est quand même pas bien ce que j'ai fait. Et à cause de ça, les enfants ne vont pas avoir de beefsteak ce midi. Eh bien, je vais lui rendre. Et en plus, non seulement je vais lui rendre, mais je vais en donner 10 euros de plus pour compenser, en quelque sorte, le méfait. Et puis en même temps, je promets, intérieurement, je promets de ne plus recommencer, parce que la peine que je lui ai faite à elle, ce n'est pas la peine de multiplier. C'est ça le repentir. Regretter et corriger. Et dans nos vies, je reviens au premier sujet, il se peut qu'on ait consciemment ou inconsciemment, parce que l'éducation occidentale et moderne nous fait croire que notre corps nous appartient et qu'on peut en faire ce que l'on veut, qu'on peut jouer avec, que c'est un joujou, ou pour soi-même ou pour les autres. Or, notre corps ne nous appartient pas. Notre corps et notre être appartient à Dieu. Il nous a été donné comme un outil, mais un outil qui a un but précis, celui de montrer l'union de Dieu et de l'homme. Mais ce n'est pas un outil de jouissance. Quand on manifeste l'union de Dieu et de l'homme, il y a effectivement une joie réelle, un plaisir réel qui se sent même physiquement, psychiquement et physiquement. Et il n'est pas mauvais, mais il ne doit pas être recherché pour lui-même. Et l'éducation, ce que je peux l'appeler moderne, je pourrais dire universelle aussi maintenant, ou à peu près, là, fait que on veut nous affranchir de ce lien avec Dieu, et on ne voit notre corps que comme un objet de plaisir pour soi-même ou pour l'autre ou pour les autres éventuellement. Et je n'ai pas besoin de vous donner les résumés des livres que vous lisez et que nos enfants ont à l'école pour expliquer ça, mais c'est une perversion. Et dans la mesure où notre monde est païen, mais nous qui sommes chrétiens, nous avons une autre exigence. Nous savons qu'il y a une autre signification, une autre utilité, une autre manière de vivre. Et c'est à nous d'être fiers de connaître Dieu et de vouloir vivre en fonction de ce qu'il a organisé pour nous. Mais si on a fait des erreurs par le passé, ou si on en fait encore aujourd'hui, ne nous décourageons pas pour autant. C'est pas parce que j'ai perdu ma virginité quand j'avais 15 ans que ma vie monastique est complètement loupée. Je peux me repentir de ça. Je porte les conséquences de ce viol, si vous voulez. Je garde certaines faiblesses, je garde des cicatrices. Mais je peux m'en repentir et je peux vivre en retrouvant une certaine virginité, si je puis dire. Mais c'est ça qu'il faut exalter. Il faut apprendre ça à nos enfants. Contrairement à ce que dit le monde, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est un trésor que Dieu nous a donné, un trésor à n'ouvrir que à une personne de mon choix, ou ne pas l'ouvrir pour l'offrir simplement à Dieu pour le garder intact. Et là, il y a une contre-éducation qui est la vraie éducation à donner, l'exaltation de ces des vertus et l'exaltation notamment de la virginité. Ne vous étonnez pas qu'il n'y ait plus de prêtres dans le monde et qu'il n'y ait plus de moines ou de moniales. On ne sait plus ce que c'est, on ne veut plus savoir. On nous éduque à l'opposé de cette consécration-là. On nous éduque de manière à nous détourner purement et simplement de Dieu, puisque c'est ça le but. Mais nous qui sommes là, on est 40, et nous qui sommes, qui essayons d'être disciples du Christ, retrouvons je mets des guillemets, ces valeurs-là, parce que je n'aime pas le terme, mais retrouvons ces vertus-là, vivons-en, soyons-en fiers, et sans le proclamer, sans le montrer, sans le dire, et trouvons notre joie même dans ces sacrifices-là, car il est vrai qu'il y a des sacrifices à faire. Quand on est à l'école et qu'on a 15 ans, et quand on voit tous nos copains qui ont chacun sa copine, quand ce n'est pas deuxième, troisième, quatrième copine, évidemment, si on veut garder, nous, notre intégrité, on se sent un petit peu seul, on se sent isolé, on se sent moqué. Et alors, si on est fier de ce que l'on est, tant pis. Et le dernier aspect auquel je pense, c'est que qu'est-ce qui nous montre que cette multiplication des unions hors mariage est négative et mauvaise? C'est qu'on en est tous, ceux qui le vivent en sont tous malheureux. On éduque, je ne parle pas des parents, mais l'éducation dite nationale. On éduque nos enfants à jouir de leur corps dès leur tendre jeunesse. Moyennant quoi, quand ils arrivent à l'âge du mariage, à 20 ans, 25 ans, ils ont déjà supporté, ils ont déjà à leur actif les blessures de 1, 2, 3, 4, 5, voire plus, divorces. Ils ont toutes ces douleurs-là, parce qu'ils ont cru, ils ont rêvé avoir un bonheur profond avec celui ou celle avec lequel ils s'étaient unis. Ça finit par des chamailleries, ça finit par des ruptures qui sont des véritables divorces. Et après, ils portent toute leur vie ces difficultés-là. Quand ils ont vécu pendant 3 ans ou pendant 6 mois avec une copine qui leur a fait la cuisine, quand ils en retrouvent une autre après, ils ne peuvent pas comparer en disant « Ah ben, celle d'avant, elle faisait mieux de cuire les nouilles que maintenant. » C'était une image. Et où est l'amour? Il y a forcément une comparaison. Il y a une douleur. Ce qui est la preuve que c'est mauvais. Et après, on n'est pas équilibré. Toute notre vie, on est tiraillé entre un idéal et une réalité. Voilà, je ne sais pas si j'irai. Je ne demande à personne de lui aller voir pour savoir qui a posé cette question-là, mais j'espère que la personne qui m'a posé cette question-là aura eu une réponse aussi claire que possible.